Suédois. Ils étaient très amis et ils s'aimaient beaucoup. Et donc, on va lire après un poème qu'il dédie à Thomas Transformer, le Suédois qui a eu le prix Nobel en 2010. Et donc, voilà. Donc, ce soir, nous allons vous parler de cet magnifique auteur, Joseph Brodsky, qui a été quelqu'un d'extrêmement violemment contre. Il était contre, il est né à Leningrad, il était contre. Et à travers ce qu'on peut lire de lui, il était contre, comme vous voulez, être un peu intéressé par les choses. Et il s'est trouvé, évidemment, en 1940, il était en fait dans l'Union soviétique. Et donc son compte est devenu multiplié. Et il va finir par être, aller en prison, être incarcéré et finir par partir aux États-Unis et sur une terre de liberté pour lui.
Семь лет спустя. Так долго вместе прожили, что вновь. 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник с лица сгоняла смутную печаль, незамутненно оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки, что дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их и веки, не веря, что их пробует спасти. Метались там, как бабочки в горсти, так чужды были всякой новизне, что тесные объятия во сне бесчестили любой психоанализ, что губы, припадавшие к плечу, с моими задувавшими свечу, не видя дел иных, соединялись. Так долго вместе прожили, что роз семейство на обшарпанных обоях сменилось целой рощей берез, и деньги появились у обоих, и 30 дней над морем языкат грозил пожаром Турции закат. Так долго вместе прожили без книг, без мебели, без утвари, на старом диванчике, что прежде чем возник, был треугольник перпендикуляром, восставленным знакомыми стаймя, над слившимися точками двумя. Так долго вместе прожили мы с ней, что сделали собственных теней мы дверь себе, работаешь ли, спишь ли, но створки не распахивались врозь, и мы прошли их, стало быть, насквозь, и черным ходом в будущее вышли.
Voilà, vous avez entendu la voix de Brodsky, c'est un poème de 68. Je me souviens parfaitement de ma première rencontre avec la poésie de Brodsky. Après l'homme, je l'ai rencontré à Paris des années plus tard, ça n'a aucune importance. Mais en revanche, la rencontre que j'ai faite, je devais avoir 17 ans, avec cette poésie, c'était un événement bouleversant. Alors je me souviens très bien des circonstances. Je faisais mes études à l'université de Moscou et on avait un trou, il y avait un prof qui n'était pas venu, il fallait attendre 1h30 avant le prochain cours. Et on était en train de marcher dans le couloir, c'était un couloir comme dans toutes les facs, dans toutes les universités qui sont bâties en préfabriqué, donc un peu kafkaïenne avec des portes, il n'y avait rien d'autre. Et on marchait avec un ami qui connaissait bien la poésie et qui avait une très très bonne mémoire, même par rapport à la moyenne des jeunes russes, parce qu'on pouvait tous réciter poèmes par cœur, on s'entraînait à les apprendre, mais lui avait une mémoire phénoménale. Et ce qui fait que quand il m'a dit, écoute, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire, un poète, je vais te lire. Et pendant une heure et demie, il m'a récité de mémoire les poèmes de Brodsky. Et donc, on marchait comme ça de long en large, toujours le même couloir, pendant une heure et demie, et je ne croyais pas mes oreilles. C'est-à-dire que j'entendais là quelque chose que je n'ai jamais entendu dans la poésie russe avant, que je n'allais pas entendre après, une sorte de voix à la fois très poétique, hein, très riche et en même temps parfaitement reconnaissable. Un poème de Brodsky, je pense qu'on le reconnaît à partir de deux vers. Hein, il suffit de voir deux vers pour pouvoir dire « ça, c'est lui ». Et ensuite, c'était le début de cet intérêt pour sa poésie. Et il faut dire que c'est un poète très, très intellectuel. Il n'est pas du tout facile à comprendre, et encore moins facile quand on l'entend, quand on ne peut pas le lire, parce que la syntaxe est très compliquée, les phrases sont longues, les poèmes sont longues. Donc ce que j'entendais là la première fois, je ne le comprenais pas toujours, je n'avais pas toujours suivre le mouvement de la pensée, mais j'étais complètement subjuguée par l'intonation, par la musique, par cette espèce de tragique soutenue, et aussi par l'effet qu'on a assez rarement avec des auteurs en littérature, c'est-à-dire l'effet de présence de l'auteur dans chaque mot qu'il écrit. Ça arrive parfois, quand on lit, on le sent là. Et c'était cette présence de Brodsky qui m'a tellement étonnée et intéressée au début. Et tout ce que je peux lire par la suite... Et c'était pas facile aussi de mettre la main sur les textes de Brodsky parce qu'il n'a jamais été publié en Union soviétique, c'était interdit, c'était très mal vu d'avoir ces textes chez soi. Et tout ce que j'ai pu lire par la suite de lui, sur lui, autour de lui, ça ne faisait que confirmer cette première impression que là, on a un phénomène qui arrive une fois par siècle. C'est un très, très grand poète. Et le statut de Brodsky à l'époque en l'Union soviétique, donc ce poète clandestin interdit dont on ne pouvait pas acheter, dont il ne fallait même pas recopier les vers, et était déjà à cette époque un statut d'idole pour certains et d'un personnage très agaçant pour l'autre. Et par la suite, ce serait ça. Il y a des inconditionnels de Brodsky parmi les Russes, et puis il y a des gens que Brodsky agace suprêmement pour tout un tas de raisons, et notamment à cause de son refus d'endosser ce rôle de poète. Et là, il faut que je vous redise les choses que sans doute beaucoup de vous connaissent déjà, mais c'est absolument indispensable pour comprendre. C'est-à-dire que le poète en Russie, ce n'est pas comme les autres poètes dans d'autres pays. C'est-à-dire que dans une société où il n'a jamais eu de société civile constituée, toute cette conscience de la nation, mettons, elle se concentrait dans les écrivains et les poètes. Comme la philosophie russe aussi est tardive, la littérature assurait toutes les fonctions, celle de l'opposition politique, celle de la de plateforme, de base philosophique, celle de la littérature, celle de l'opinion publique, et un tout petit peu aussi celle de religion, vu ce qu'était l'Église orthodoxe au cours de son histoire. Et tout ça faisait des poètes, des prophètes, des figures politiques, forcément, des figures publiques. Et en plus, il y avait une sorte de ce qu'on peut appeler une succession apostolique en Russie concernant les poètes, c'est-à-dire qu'un grand poète venait après un autre, et c'était comme ça que Pouchkin, au 19e, était adoubé par Derjavine, qui était... le représentant du classicisme russe, et qu'après Pouchkine, il y en avait d'autres, et qu'ensuite, au XXe siècle, il y a eu toute cette pliade, les quatre, Mandelstam, Pasternak, Tsvetaeva et Akhmatova, et que Brodsky était adoubé par Akhmatova, qui a dit, voilà, ça c'est notre plus grand poète. Et il n'avait même pas 30 ans à l'époque. Et ce qui frappe chez Brodsky, et ce qui frappe aussi dans sa poésie, c'est précisément le fait qu'il fait tout pour échapper à ce rôle. C'est une tâche difficile, sinon impossible, parce que finalement, si on regarde bien l'histoire de la littérature russe, on voit qu'un écrivain russe ou un poète russe se constitue par rapport au système politique de son pays, par rapport à l'État. Il est toujours en opposition et finalement, il est celui, le seul interlocuteur que l'État, d'une façon ou d'une autre, accepte de reconnaître. Et on se souvient de la célèbre phrase de Mandelstam qui disait « Ici en Russie, on prend les poètes au sérieux parce qu'on les tue. » Et effectivement, tuer un poète, c'est aussi une façon de le reconnaître. Et tout ça déplaisait souverainement à Brodsky, et ce refus de dialoguer tout simplement avec l'État est aussi parfaitement sensible dans sa poésie, dans n'importe quel poème. Et c'est ça aussi qui m'a frappée, parce qu'évidemment, à l'époque où j'ai commencé à le lire, j'étais fascinée par la littérature contestataire, par les dissidents, par Solzhenitsyn. Et on voit bien qu'un auteur comme Solzhenitsyn ne pourrait pas être ce qu'il a vu s'il n'y avait pas face à lui cet État. Alors que Brodsky essaie constamment d'en échapper, seulement il n'y arrive pas parce que il est né au moment où il est né, c'est-à-dire en 1940, et dans un lieu où il est né, à Saint-Pétersbourg, qui était à l'époque Leningrad, c'est-à-dire en plus en plein guerre mondiale. Et tout ce vécu, qu'il le veut ou non, apparaît à la fois dans sa poésie et dans sa prose, par lequel nous allons commencer.
À Leningrad, devant la gare de Finlande, l'une des cinq gares par lesquelles le voyageur entre dans la ville ou la quitte, tout au bord de la Neva, s'élève un monument à un homme dont cette ville porte actuellement le nom. En fait, toutes les gares de Leningrad possèdent un monument à cet homme, statue grandeur nature, devant le bâtiment ou buste massif à l'intérieur. Mais le monument situé devant la gare de Finlande est unique. Non pas à cause de la statue elle-même, car le camarade Lénine est représenté de la manière pseudo-romantique habituelle, une main tendue en l'air comme s'il haranguait les masses, mais parce que le camarade Lénine prononce son discours juché sur le toit d'une voiture blindée. Le style de cette statue est celui des débuts du constructivisme si en vogue aujourd'hui en Occident, et d'une façon générale, l'idée même de tailler une voiture blindée dans la pierre dénote une certaine accélération psychologique à un sculpteur quelque peu en avance sur son temps. À ma connaissance, c'est le seul monument au monde à figurer un homme sur une voiture blindée. Unique à cet égard, il est le symbole d'une nouvelle société. L'ancienne société était en général représentée par des hommes à cheval. Avec un certain à-propos, à quelques 3 km de là, en aval, sur la rive opposée du fleuve, s'élève la statue d'un homme dont la ville porta le nom dès le jour de sa fondation, Pierre le Grand. Ce monument est universellement connu sous le nom de cavalier de bronze, et son immobilité n'a d'égal que la fréquence avec laquelle on le photographie. C'est un monument impressionnant, haut d'environ 6 mètres, le chef-d'œuvre d'Étienne Maurice Falconet, qui avait été recommandé conjointement par Voltaire et Diderot à la grande Catherine, marraine de l'ouvrage. Au sommet d'un énorme bloc de granit, provenant de l'isthme de Carélie, se dresse Pierre le Grand, gigantesque, dont la main gauche retient le cheval cabré qui symbolise la Russie et la main droite pointe vers le nord. Plus le thermomètre descend, plus la ville paraît abstraite. Moins 25 est une température déjà assez basse, mais elle continue de tomber comme si, ayant déjà réglé leur compte aux hommes, aux fleuves et aux édifices, elles visaient les idées, les concepts abstraits. Avec leur fumée blanche qui flotte au-dessus des toits, les immeubles qui bordent les quais ressemblent de plus en plus à un train figé en partance pour l'éternité. Dans les parcs et les jardins publics, les arbres évoquent ces croquis de poumons des manuels scolaires avec les cavernes noires de leur nid de corbeaux. Et toujours, au loin, l'aiguille dorée de l'amirauté tente, tel un rayon inversé, d'anesthésier le contenu des nuages. L'on ne saurait dire qui, des petites gens d'aujourd'hui ou de leurs maîtres puissants, qui filent dans leur limousine noire bourrée de gardes du corps, paraît le plus incongru sur cette toile de fond. Les uns et les autres se sentent pour le moins mal à l'aise. Je suis né. J'ai grandi dans les marais baltiques, près de vagues de zinc qui accourent par couples et se succèdent. De là toutes les rimes, de là cette voix impalpable, entortillée comme un cheveu trempé jeté sur le sable pour peu qu'on l'aperçoive. Appuyé sur le coude, le lobe de l'oreille se plongera dans l'écoute, pas du flot. De la bourrasque dans les draps, de la bouilloire prête à catapulter son couvercle et des volets. Peut-être du cri des mouettes. Ce qui sauve dans ce plat pays, c'est que tout est sur la paume. Pas de refuge, rien. On sait d'avance où l'on devient fantôme, car le bruit est le seul à se plaire dans l'espace. Les échos sont du luxe, les yeux s'en passent. Nous étions trois dans notre pièce et demie, mon père, ma mère et moi. Une famille russe typique de l'époque. C'était l'après-guerre et très peu de gens pouvaient se permettre d'avoir plus d'un enfant. Certains n'avaient même pas les moyens d'avoir un père vivant ou présent. La Grande Terreur et la guerre avaient fait beaucoup de victimes dans les grandes villes, en particulier dans ma ville natale. Nous devions donc considérer que nous avions de la chance, d'autant plus que nous étions juifs. Nous avions tous les trois survécu à la guerre. Je dis tous les trois, car moi aussi, je suis né avant qu'elle ne commence, en 1940. Et mes parents avaient réussi à survivre aussi aux années 30. Je ne sais presque rien de la façon dont ils se sont rencontrés, de la cour qu'ils se sont faite. J'ignore même en quelle année ils se sont mariés. Pas plus que je ne sais comment ils ont vécu les 11 ou 12 dernières années de leur existence, ces années qu'ils ont passées sans moi. Comme je ne le saurai jamais, je préfère supposer que leur mode de vie était resté inchangé. Peut-être même vivaient-ils mieux sans moi, aussi bien sur le plan financier que parce qu'ils n'avaient plus à craindre de me voir de nouveau arrêté. Je ne sais pas. Et je ne saurais jamais comment ils se sentaient durant les dernières années de leur existence. Combien de fois ils ont connu l'angoisse, combien de fois ils se sont sentis prêts à mourir, quels étaient leurs sentiments après cela, devant un nouveau sursis, et comment ils retrouvaient l'espoir que nous serions de nouveau tous les trois ensemble. « Mon fils, » disait ma mère au téléphone, « la seule chose que je souhaite dans la vie, c'est te revoir. » Il n'y a que ça qui m'aide à tenir le coup. Et une minute après, qu'est-ce que tu faisais il y a 5 minutes avant d'appeler? Eh bien, je faisais la vaisselle. Ah, c'est très bien. C'est une très bonne chose de faire la vaisselle. C'est parfois une excellente thérapie. J'écris ceci en anglais parce que je voudrais leur offrir une certaine marge de liberté, une marge dont la largeur dépend du nombre de ceux qui voudront bien lire ces mots. Je veux que Maria Wolpert et Alexandre Brodsky deviennent réels dans un code de conscience étranger. Je veux que les verbes de mouvement anglais décrivent leurs gestes. Cela ne les ressuscitera pas, mais la grammaire anglaise peut du moins s'avérer un meilleur moyen que la grammaire russe pour s'évader des cheminées du crématorium public. Écrire sur eux en russe ne ferait que prolonger leur captivité, leur réduction à l'insignifiance et aboutirait à un anéantissement mécanique. Je sais qu'il ne faut pas confondre l'État et la langue. Mais c'est en russe qu'à ces deux vieillards qui se traînaient dans les innombrables administrations et ministères, dans l'espoir d'obtenir l'autorisation de partir à l'étranger, voir leur fils unique une dernière fois avant de mourir, on a répondu inlassablement pendant 12 ans d'affilée que l'État considérait cette visite comme sans objet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la répétition de cette déclaration indique une certaine intimité entre l'État et la langue russe. En outre, même si j'écrivais tout cela en russe, ces mots ne verraient pas la lumière du jour sous le ciel russe. Qui donc les lirait ? Une poignée d'émigrés dont les parents sont morts ou mourront dans les mêmes conditions ? Ceux-là ne connaissent cette histoire que trop bien. Ils savent ce que signifie de ne pas être autorisé à revoir ses pères et mères sur leur lit de mort. Ils connaissent le silence qui tombe après le dépôt d'une demande de visa spéciale pour assister à l'enterrement d'un membre de sa famille. Et ensuite, il est trop tard, l'homme ou la femme repose le combiné et sort dans l'après-midi, étranger, éprouvant un sentiment qui n'a de nom dans aucune langue et qu'aucun hurlement ne peut exprimer ni... Que pouvais-je bien leur dire ? De quelle manière les consoler ? Aucun pays n'a mieux maîtrisé l'art de la destruction de l'âme de ses citoyens que la Russie, et aucun homme ne peut la réparer de sa plume. Non, cette tâche ne peut être accomplie que par le Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle il dispose de tout son temps. Que l'anglais, donc, recueille mes défunts. En russe, je suis prêt à lire, à écrire des poèmes ou des lettres. Mais pour Maria Wolpert et Alexandre Brodsky, l'anglais fournit un meilleur semblant d'au-delà, peut-être le seul existant à part moi. Et pour ce qui est de moi, écrire dans cette langue est comme faire la vaisselle, une thérapie. Il y a 2 corneilles dans ma cour, ici, à South Hedley. Elles sont assez grosses. Elles ont presque la taille de corbeaux et ce sont elles que je vois en premier en rentrant ou en quittant la maison en voiture. Elles sont apparues l'une après l'autre, la première il y a 2 ans, à la mort de ma mère, la seconde l'année dernière, juste après la mort de mon père. Mais ce sont peut-être ces événements qui m'ont fait prendre conscience de leur présence. Maintenant, elles s'envolent ou se posent toujours de conserve. Et pour des corneilles, elles sont trop silencieuses. J'essaie de ne pas les regarder, en tout cas de ne pas les observer. Mais j'ai remarqué qu'elles aiment bien se tenir dans la pinette qui s'étend derrière ma cour et descend sur environ 500 mètres jusqu'au pré qui borde un petit ravin avec 2 grosses pierres tout au bord. J'évite maintenant cet endroit car je m'attends à les y trouver, ces corneilles sommeillant au sommet de ces 2 pierres au soleil. Je n'ai pas essayé non plus de trouver leur nid. Elles sont noires, mais j'ai vu que le dessous de leurs ailes avait une couleur de cendre humide. Le seul moment où je ne les vois pas, c'est quand il pleut.
Oui, et la réalité derrière cette prose était encore plus terrible d'une certaine façon. Il y a en même temps assez banal parce que la vie de Brodsky en l'Union soviétique, c'est-à-dire ses premières 32 ans, c'est une histoire étrange d'une incompatibilité totale entre un individu et un système et qui commence très tôt parce qu'il commence par un geste absolument impensable dans ce pays et à cette époque, d'un garçon qui à 15 ans, brusquement, se lève au milieu d'un cours en classe et quitte la salle de classe, quitte l'école pour ne jamais y revenir. Brodsky sent très très tôt et qu'il n'a rien à faire dans le système, quelle que soit la forme accidentelle de ce système. Et il commence, à partir de 15 ans, il commence à essayer de se mettre en marge, en quelque sorte, de se détacher. Il commencera à écrire des poèmes un tout petit peu plus tard, mais les premières années, c'est une réaction vraiment d'un instinct de conservation qui lui dit, voilà, il faut sortir. Donc il sort, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler dans une usine, après il va travailler dans une morgue de l'hôpital à côté. Il dit qu'il ne voyait pas la différence entre les deux, ni avec l'école qui était à côté, ni avec la prison qui était là. La topographie de ses premières années, elle est très très dense. Il disait que la prison se trouvait à côté de l'école, laquelle se trouvait à côté de l'hôpital où il y avait la morgue, et l'usine n'était pas loin. Et donc il commence à accumuler des expériences. Il commence à écrire assez vite, et dès qu'il commence à écrire, c'est-à-dire dès que ses pensées sortent de sa tête et revêtent une forme, sinon encore écrite, mais du moins donc, qu'on peut retenir, qu'on peut répéter, il commence à agacer suprêmement l'État dont il est le citoyen. Alors, assez vite, on veut s'en débarrasser, et on lui fait un procès pour fainéantise. À savoir, donc, tout citoyen soviétique, à partir du moment où il commençait à travailler, avait un livret de travail. Ce livret de travail, ça l'accompagnait jusqu'au cimetière. C'est-à-dire, on le tamponnait lorsqu'il était embauché quelque part, on le retamponnait quand il quittait cet endroit. Après, hop, on le tamponner à nouveau, et on n'avait pas le droit d'avoir des intervalles plus de, je sais plus, 3 ou 6 mois entre les tampons. Celui qui ne pouvait pas montrer des tampons dans son livret de travail était considéré comme un fainéant, qui vivait donc au crochet de la société, et si les autorités le voulaient, ça pouvait se terminer très mal. C'était le cas de Brodsky. Donc on l'a arrêté et on a fait un procès où il était accusé de ne pas travailler de façon productive. Le moment où déroulait ce procès, c'est-à-dire le milieu des années 60, était significatif. Encore 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, personne n'aurait rien su de ce procès. Brodsky aurait été expédié dans quelques camps de travail en Sibérie ou en Extrême-Orient ou dans le Nord, et il aurait péri là-bas sans que personne ne lève le petit doigt. Mais là, on était quand même au moment de dégel, ce qui fait qu'il peut y avoir du public lors du procès. Et dans ce public lors du procès de Brodsky à Leningrad, il se trouvait une personne, un journaliste, qui a eu le courage de faire le procès verbal, de noter tout ce qui se disait. Et une fois retapé à la machine, recopié, ce procès verbal du procès de Brodsky a circulé dans les milieux intellectuels dans tous les pays. Il est très très vite passé à l'étranger, était diffusé par les radios, et ça a fait un scandale énorme grâce à cette journaliste. Et parmi les forts moments des dialogues entre le juge, qui visiblement n'a jamais lu une ligne de Brodsky, mais qui savait très bien ce qu'il fallait dire, et qui lui disait « Vous ne faites rien, vous ne travaillez pas. » Si, disait Brodsky, « j'écris des poèmes, je suis poète. » Elle retorquait « Mais qui vous a nommé poète ?» À quoi Brodsky, légèrement interloqué, disait « Moi, je pensais que c'était par la grâce de Dieu. » Donc c'était un dialogue qui durait des heures et des heures, hein, qui était pour beaucoup une des raisons du premier infarctus de Brodsky, parce qu'il en a eu, il en a eu tout un paquet très, très jeune, et il est mort d'ailleurs d'un arrêt cardiaque. Et donc des dialogues avec le juge certainement ont joué son rôle. Quoi qu'il en soit, il a écopé de 5 ans de relégation. Il a été envoyé dans un kolkhoz dans le nord, près d'Arkhangelsk, où il a donc où il travaillait comme donc préposé. À un moment, il conduisait un tracteur. Une autre fois, il s'occupait des vaches de ce kolkhoz. Et pendant ce temps, le scandale grandissait parce que non seulement les intellectuels à l'intérieur du pays, mais aussi le pen club un peu partout et des personnalités politiques commençaient à dire que ça ne va pas quand même de traiter de la sorte un jeune garçon qui n'a jusqu'à présent qui n'a pas fait mal à une mouche. Et finalement, c'était c'était la lettre de Sartre, en fait, qui, en tout cas chronologiquement, c'était la dernière lettre après laquelle il a été gracié et relâché et a eu le droit de revenir à Saint-Pétersbourg. Sartre a écrit que les camarades de parti ne comprenaient pas bien ce qui s'est passé avec ce poète Brodsky relégué dans son village d'Arkhangelsk. Donc on l'a laissé revenir. On l'a laissé revenir et il est revenu célèbre. Célébrité qui probablement ne lui a pas beaucoup plu parce que, comme je vous le disais, il affirmait que le poète, me disait-il, ne devrait pas avoir le rôle qui est le sien en Russie. C'est-à-dire la renommée de poète doit venir d'autres sources. Et en même temps, il comprenait qu'il était désormais protégé par cette gloire, parce qu'au même moment, certains de ses poèmes sortis de l'Union soviétique clandestinement paraissaient dans un recueil aux États-Unis, et donc on voyait son œuvre commençait à être visible, accessible, les traductions commençaient à se faire. Donc, d'un jour au lendemain, grâce à ce procès, il est devenu célèbre et encore plus insupportable aux yeux du système, qu'il n'attaquait jamais de front, qu'il n'a jamais attaqué de ses écrits, mais dont toute son existence, son être, sa personnalité était une accusation permanente. Donc ça ne pouvait pas durer, effectivement, ça n'a pas duré longtemps, parce que au début des années 70, on ne voulait plus entendre son nom, ni voir circuler en samizdat, donc clandestinement, ses poèmes, et on lui a proposé de demander un visa pour Israël. C'était une façon légale de se débarrasser à la fois donc de permettre aux juifs qui le voulaient de quitter l'Union soviétique, mais aussi de se débarrasser des juifs ou non juifs dont on ne voulait pas la présence sur le sol de l'Union soviétique. Et on lui a indiqué très clairement que le choix était simple, c'était ou aller à l'est ou aller à l'ouest. Et il a choisi d'aller à l'ouest et on lui demandait de quitter l'Union soviétique. On lui a laissé un mois pour tout préparer. Et c'est dans cette situation qu'il est parti, en sachant qu'il n'allait plus jamais revenir dans sa ville, qu'il n'allait jamais plus revoir ses parents, il était fils unique, qu'il n'allait jamais revenir revoir ses amis et qu'il allait surtout être arraché à ceux qui étaient sur l'air qu'il respirait, c'est-à-dire la langue russe, qu'il n'allait plus avoir aucun contact avec le milieu linguistique qui était le sien, dont il avait besoin pour écrire. Et il est parti, il se retrouvait très vite aux États-Unis Il avait des propositions pour rester en Europe, il a refusé en disant qu'un changement de ce genre doit être complet, donc autant aller le plus loin possible. Donc il a traversé l'Atlantique et il a passé le reste de sa vie aux États-Unis jusqu'à sa mort. Et en fait, là, il n'y a plus rien à raconter. Sa biographie s'arrête vraiment à ce départ. Et d'ailleurs, un des meilleurs livres écrits sur Brodsky par son traducteur suédois s'arrête là. L'auteur raconte sa vie jusqu'au moment de l'exil et puis dit, ben voilà, maintenant je m'arrête parce que la biographie est finie. La biographie aussi forme une sorte d'œuvre à achever. Après, il a eu la vie d'un intellectuel, d'un auteur occidental quelconque. Il a enseigné aux États-Unis. Presque tous les jours, il téléphonait à ses parents, restait à Leningrad pour leur dire qu'il était en train de faire la vaisselle. Il a essayé d'y aller, il n'a jamais eu le visa, il a essayé un tas de combines. Les parents demandaient le visa pour la Finlande dans l'espoir de le rencontrer là-bas. Il n'a jamais rien eu. Ensuite, c'était la mère qui était morte. Et puis, l'année après, c'était le père qui s'est éteint dans cet appartement communautaire où ils avaient une pièce et demie, celle qui a donné le titre à ce bel essai dont on a entendu un extrait. Et c'était un voisin qui l'a trouvé mort dans son fauteuil, dans cette pièce et demie. Ça, c'est la chose que Brodsky n'a jamais pardonné à ce pays, à cet État. Mais donc, cette biographie était, oui, plutôt, bien sûr, c'était l'expérience qui nourrissait son œuvre, mais en même temps, c'était quelque chose d'assez gênant parce qu'à ses propres yeux, le poète ne doit pas avoir de biographie. Le poète n'est qu'un instrument de la langue. Et que ce qui compte, c'est la poésie qu'il crée, c'est le poème qu'il écrit. Car, d'après lui, et je cite, la poésie est la raison d'être du genre humain. Donc, on reviendra, je reviendrai là-dessus, sur cette affirmation de Brodsky, mais on va voir quelques poèmes parmi ce qu'il a écrit au cours de cette carrière, donc pendant 40 ans. Был черный небосвод светлей тех ног, и слиться с темнотой он не мог. В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня.
Le grand ciel noir était plus pâle que ses jambes. Avec l'obscurité, il ne pouvait se fondre.
Je n'ai pas souvenir de noir plus sombre.
Plus noir que charbon étaient ses jambes.
Il était noir comme la nuit, comme le vide.
Il était noir de la crinière au fouet, mais c'est d'un autre noir déjà qu'était son dos qui ignorait la selle.
Il restait sans bouger, endormi semblait-il, et la noirceur de ses sabots était terrible.
Il était noir, inaccessible à l'ombre.
Si noir qu'il ne pouvait être plus sombre.
Aussi noir que l'est la nuit noire à minuit.
Aussi noir que l'est le dedans d'une aiguille.
Aussi noir que sont les futaies les plus hautes.
Comme dans la poitrine, l'espace entre les côtes. Comme le trou sous terre où se cache le grain.
À l'intérieur de nous, c'est noir, je le crois bien.
Et pourtant, oui, il devenait plus sombre. Il n'était que minuit à notre montre.
Il était là, sans s'avancer d'un pas. Sous son ventre régnaient des ténèbres insondables. Son dos déjà disparaissait. Plus rien de clair ne restait.
Ses yeux luisaient en blanc, comme une chiquenaude. Sa prunelle en était plus effrayante encore. Il était comme un négatif.
Pourquoi avait-il donc, suspendant son pas vif, décidé de rester parmi nous si longtemps, sans s'éloigner de notre feu de camp.
Pourquoi respirait-il cet air si noir, faisant craquer les branches sous son poids?
Pourquoi ce rayon noir qu'il faisait ruisseler?
Parmi nous tous, il se cherchait un cavalier.
Шесть лет спустя. Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник, с лица сгоняла смутную печаль, незамутненной оставляя даль.
Nous avions tant vécu ensemble que le 2 janvier retomba cette année sur un mardi et que l'arc étonné de ses sourcils, comme un coup d'essuie-glace, balayait de sa face le chagrin et découvrait limpide les lointains.
Nous avions tant vécu ensemble que s'il neigeait, c'était pour nous à jamais. Et quand, pour éviter à ses paupières de se plisser, mes paumes les couvraient, elle se débattait toujours comme un papillon pris dans le creux de la main.
Et nous cherchions si peu la nouveauté que nos corps, dans nos rêves enlacés, auraient fait honte à la psychanalyse, et que ces lèvres de mon cou, à celles qui venaient de souffler notre chandelle, montaient se joindre sans voir autre chose.
Nous avions tant vécu ensemble, tant que sur les papiers peints, l'essaim des roses fit place au bouleau, et que, d'argent, tous deux pourvus, 30 jours d'affilée, nous vîmes du couchant les incendies menacés de sinistre, la Turquie.
Nous avions tant vécu ensemble, sans livres ni meubles, sur les 3 divans, que bien avant de naître, le triangle fut simplement la perpendiculaire que les amis dressèrent sur 2 points si rapprochés qu'ils n'en formaient plus qu'un.
Nous avions tant vécu ensemble, tant. Nos ombres n'étaient plus que 2 battants de porte que, travail, sommeil, n'importe, nous gardions joints, si bien qu'il a fallu les traverser pour trouver une issue dans l'avenir par la petite porte. Nuages. Ô nuages de la Baltique l'été, surtout ici-bas, vous gardez l'avantage.
Может, и в той в жизни клубитесь, конь или витязь, реже святой.
Il n'en est qu'un qui voit votre envers pareil à la chair tendre du nankin.
Alors moi, fort de mes angoisses, je vous vois matrice du néant de l'autre vie. Surplombant la pierre, la fameuse mer, son clapotis, gardant le cap, vous êtes sculpture de vaste aventure sans nulle escale.
Temple ou tertre, Tolstoï de profil, Rome ou froid chenil de célibataire, cire fondant, Vienne ancestrale, iceberg encéphale en même temps, paradisiaque vis-à-vis, le vent seul vous arpente ici, hélas.
Вас кучевых, перстых, беглых, радость оседлых и кочевых, вас мне ясна рвяность, бессвязность, сумма и разность, речи и сна.
En myriade, flocons, fugitifs, joie pour les captifs et les nomades, par vous s'éclaire, déchirure, brisure, somme et bigarrure de mots et rêves.
C'est votre fronde qui m'a pris le profond mépris envers les nombres, l'équité, les poids et mesures, au profit des purs, chimères et beautés.
Vous avez conçu une île, miroir grossissant du globe, pour 2 exigus.
Des palais aussi, univers heureux et des amoureux, douce tyrannie.
Mousseuse cascade d'anges,
robe de bal empesée,
s'affalent les barricades,
alpages unis aux tripots,
Népal aux papillons,
ô nuages.
Dans ce ciel sensible au péché, 100 mètres des rivages baltes, est-il audible de vos cimes l'appel?
De votre lore, qui est l'auteur? Qui votre Sisyphe?
Кто там вовне, дав вам обличье, звук из величия вычел, за ней чудо всегда ваше беззвучно.
Quelqu'un du dehors en vous façonnant a privé de son vos splendeurs. Votre miracle est toujours sans voix.
vos troupeaux, louvois en détail ou vrac, louvois en des rondes sans faire de bruit, en ayant choisi ceux qui se fondent au lieu du final en vos muets décors. Vous, plus léger que le corps, meilleur que l'âme.
À Thomas Tranströmer. Me voici de nouveau sous ce ciel délavé, gorgé du pain unique, plumeux et bien levé de l'âme. Il se met à bruiner, un rat des champs me sifflote un salut, cela fait 50 ans. La pervenche et le roc, tout couverts des soies rases du lichen, n'ont pas bougé. Elle sent la vase, la simple bande, le pâle coupon d'Homère, que sa taille contraint à rester sédentaire. Les arbres, les premiers, en firent l'observation, eux dont la fixité vient aussi du soupçon envers l'oiseau volage et exhibe un goût franc pour les multiples bras, voire l'unique jambe. Dans cet ici étal, impassible, au-delà, ne différencie un poisson pris à la pas de la statue mouillée de pluie d'un alconaute que les adeptes de la division par deux. Et signe, plus que produit de la division de la voix par l'infini, fils de glaciation, je me serre contre le granit bien-aimé, rouille de tout mon œil humide du retour au bercail.
И более двоеточие, чем частное отделение, голоса на голоса на бессрочие, исчадие оледенения, я припадаю к родной ржавой гранитной массе, серой каплей зрачка, вернувшейся в освояси. Oui, vous voyez, vous avez déjà remarqué une chose, c'est que les poèmes de Brodsky sont souvent très longs. Et c'est exact. Hein. C'est une poésie qui est très intellectuelle, je le disais, et qui a besoin de temps pour argumenter, pour se développer. Donc chaque pensée, chaque idée est vraiment soumise à une analyse, à une démonstration, ce qui donne de très très longs poèmes et des poèmes assez compliqués. Et aussi, ce que vous avez probablement entendu en nous écoutant, c'est cette espèce de retenue et de contrôle exercé par l'auteur sur la voix, sur ce qu'il raconte et sur sa façon de raconter. Il n'y a pas de débordement émotionnel dans la poésie de Brodsky, alors que cette poésie est d'une très très grande intensité émotionnelle, mais il n'y a jamais de cri, il n'y a jamais de pathos, c'est toujours maintenu à un niveau égal d'émotivité, pour ainsi dire. Et ce n'est pas le propre de sa nature, cette façon d'écrire. C'est le propre de sa pensée, c'est-à-dire sa façon de considérer le monde et sa façon de percevoir la poésie et ses rapports avec ceux qui, pour lui, sont deux notions centrales, c'est l'espace et le temps. Le temps, écrit-il, il le répète plusieurs fois, est mon seul sujet. Le temps est ce qu'il fait de l'être humain. Et effectivement, le thème du temps et des rapports entre le temps et l'espace revient pratiquement dans tous les poèmes et aussi, quel que soit le sujet, que ce soit de la poésie d'amour ou une poésie contemplative ou une poésie descriptive. Donc, il y a toujours cette réflexion-là sur le temps et sur ses rapports avec l'espace. Parce que pour Brodsky, comme il dit, si l'espace est une chose, le temps est l'idée de la chose. Et ajoute-t-il, inutile de dire que moi je préfère l'idée à la chose. Donc pour lui, le temps est plus grand que l'espace, et évidemment, le temps est l'ennemi de l'homme, du genre humain, de l'humanité et de la vie, parce que le temps englouti minute par minute chez lui aussi. Seulement, il est persuadé, et là nous entrons dans une région qui est propre à Brodsky et qui le distingue de la plupart des gens et probablement de la plupart des poètes, c'est qu'il est persuadé que la langue est plus grande que le temps, que la langue, en structurant le temps, c'est-à-dire en l'organisant selon le principe musical ou rythmique ou celui du maître, est capable de lutter contre la progression, la victoire du temps, en gros contre l'entropie, et que le poète, lui, est revêtu de cette mission finalement sacrée, c'est de structurer le temps, c'est de s'opposer à l'action anéantissante du temps, quelque chose qui résiste, c'est-à-dire un texte poétique. Et le temps revient souvent, et bien sûr, c'est pas le seul poète au monde qui est préoccupé par cette problématique, mais si on commence à chercher la famille d'esprit, si on essaie de définir la famille d'esprit poétique de Brodsky, tout à coup on se retrouve assez loin dans le passé, parce que ce sont les auteurs de l'Antiquité, surtout les poètes romains, qui sont présents chez lui et qui nourrissent aussi à la fois sa poésie et sa pensée, parce qu'il revient constamment et visiblement pour lui. La source d'inspiration constante, c'est cette poésie antique, aussi extrêmement rigide, mais extrêmement construite métriquement. C'est aussi, pour ce qui est la vision de la vie, du temps et de l'art, c'est bien entendu les métaphysiciens anglais, qu'il aimait beaucoup, notamment John Donne. Il a écrit une merveilleuse élégie à John Donne qui est vraiment une reprise de toute la problématique de ces poètes-là. Et plus généralement, la poésie baroque, qui forme une sorte de substrat de ce qu'il écrit, de ce qu'il pense. Et puis, parmi les contemporains, il y a bien sûr son grand idole, c'est Winston Oden, à qui il a écrit, dédié plusieurs poèmes, et qu'il a écrit un très, très bon essai. Donc, cette esthétique baroque, ça vient à la surface très souvent dans la poésie de Brodsky, et c'est ça aussi qui le rend assez difficile à la lecture et à la compréhension, parce que c'est cette pensée méandreuse qui s'attache, qui fait des tours très ornementales parfois, et qui aussi privilégie donc les thèmes qui sont chers à Brodsky, c'est-à-dire la matière organique soumise au temps, périssable, donc foncièrement condamnable, et ce qui peut s'opposer à cette vie organique, c'est l'art, mais l'art pensé comme donc de la matière organisée grâce à des structures formelles. Et bien entendu, très très souvent, comme chez les poètes baroques, de la même manière chez Brodsky, cette obsession de penser les notions jusqu'au bout, de développer les idées, ça aboutit à la création de monstres, parce qu'une pensée qui n'a rien de particulièrement déviante en elle-même, menée jusqu'au bout, peut déboucher sur des conclusions étonnantes. Et une de ces idées, c'était celle par laquelle j'ai commencé, c'est cette idée de Brodsky que la langue est plus grande, plus puissante que le temps. Mais justement, parlons-en de la langue, parce que nous avons dans l'œuvre de Brodsky, il y a trois groupes de textes ou de genres. Il y a la poésie, qui est écrite essentiellement en russe, qu'il traduit parfois lui-même, mais surtout il était traduit par d'autres. Il y a deux pièces de théâtre écrites en russe, et il y a des essais qui sont presque toutes, non pas presque toutes, mais la grande majorité est écrite en anglais. Donc à la fois pour des raisons sentimentales comme celles qu'il donne à propos de ses parents, qu'il veut leur offrir un espace de liberté grâce à la langue anglaise, mais aussi parce que il a placé la poésie tellement plus au-dessus de la prose, ce qui lui valait parfois des déboires avec à la fois ses collègues et les critiques, lorsqu'il disait que la seule occupation digne de l'homme, c'est écrire de la poésie, que même écrire de la prose, c'est comme se prostituer. Évidemment, donc pour lui, écrire la poésie, il ne pouvait le faire qu'en russe. En revanche, il y a toute cette réflexion qui probablement débordait déjà le cadre poétique, qui Pouchkine disait que avec l'âge on délaisse la poésie au profit de la prose, ça arrive parfois, et visiblement Brodsky lui aussi éprouvait le besoin de s'exprimer en prose. Il le faisait donc en anglais. Je vous dirais entre parenthèses que cet autodidacte qui a terminé ses études à l'âge de 15 ans et que tout le reste et il a appris tout seul a été, dès son arrivée en Occident, à Vienne d'abord puis aux États-Unis, il a eu un poste dans une université anglaise et ensuite il a fait toute sa carrière comme professeur dans diverses universités des États-Unis, et les échos qu'on a de son enseignement sont assez originaux, parce que par exemple il demandait à ses étudiants d'apprendre par cœur un poème pour chacun de ses cours pendant toute l'année, en disant que non seulement c'était bien pour connaître la poésie, mais que ça allait aussi leur apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes. On peut imaginer combien d'étudiants il avait à la fin de l'année avec cette méthode. Il arrivait également en début de l'année avec une énorme liste de littérature, des livres à lire, où il mettait pêle-mêle tout ce qu'il avait lu et tout ce qu'il considérait qu'un homme cultivé, que ses étudiants devaient lire. Et ça commençait par Ovide et ça s'achevait par L'homme sans qualité de Moudil, avec des... énormément de poésie, beaucoup de prose, et il disait à ses étudiants, en leur distribuant la liste, il disait voilà, maintenant vous savez ce que vous allez faire dans les deux années qui viennent. Et donc cette rapport à cette pensée aussi très, très utopique, parce qu'il a au fond, ce qu'il voudrait, c'est de transformer tout le monde en Joseph Brodsky ou tout le monde en poète. Mais ça servait aussi des répercussions intéressantes sur les traductions, parce qu'il pensait que... Donc, comme pour lui, l'énoncé est moins important que la forme poétique... Il exigeait de tous ses traducteurs dans tous les pays, dans toutes les langues, de préserver le maître et le rythme et, si possible, les rimes. Ce qui, évidemment, est une tâche impossible et un pari intenable. Et lui, il expliquait « Je préfère, disait-il, paraître figé qu'invertébré. » C'est-à-dire que pour lui, vraiment, la structure, c'était la structure formelle d'un poème, ce qui fait que Si on essaie d'appliquer ces exigences, on aboutit à des traductions qui ne marchent pas. Et si on essaie de s'écarter de ces exigences, par exemple, laisser tomber la rime, on arrive à quelque chose où les pertes sont dès le début énormes, justement parce que la structure formelle des vers y est chez Brodsky beaucoup plus importante que chez n'importe qui, justement à cause de cette philosophie de langage qu'il développe et qu'il défend et qu'il amplifie et qu'il a défendu jusqu'à la fin de sa vie. Mais donc, sinon, il écrit en anglais, surtout, et il est l'auteur d'une soixantaine d'essais, dont tous n'étaient pas du même niveau, mais dans ces 60 essais, il y a au moins une moitié qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, la plupart en anglais. Et il y a deux volets dans sa prose, dans ses essais. D'une part, il y a des essais consacrés, ce sont souvent des reprises de ses cours, ils sont consacrés à des auteurs et des poètes qu'il étudiait avec ses étudiants, ou bien qui développe les pensées et les problématiques qui lui tenaient à cœur et qui sont très présentes dans sa poésie. C'est-à-dire qu'en lisant sa prose, on apprend aussi beaucoup sur sa poésie. Et comme la prose est quand même plus facile à traduire, on peut connaître beaucoup sur Brodsky en lisant la prose, en lisant les essais, parce que les idées essentielles sont là. Pour le reste, il faut apprendre le russe et le lire. Mais comme on n'a pas le temps de le faire maintenant, on va quand même se tourner vers la prose qui a été écrite en anglais et puis traduite en français. Et c'est un grand essai qui s'appelle « Loin de Byzance », dont on va vous lire quelques extraits. Où il livre son aperçu de temps, de l'espace, de l'histoire, de la civilisation, du rôle de la culture et du rôle de poète, et qui nous ramène aussi, même s'il refuse de faire entrer la biographie dans son œuvre, qui nous ramène finalement à son propre vécu.
La poussière. Cette étrange substance qui vous vole dans le visage, elle mérite l'attention et on ne devrait pas la dissimuler sous le mot poussière. N'est-ce que de la terre remuée qui ne parvient pas à trouver sa place, mais qui constitue l'essence même de cette partie du monde ? Ou est-ce la terre qui aspire à s'élever dans l'air, à se détacher d'elle-même, comme la pensée du corps, comme le corps qui s'abandonne à la chaleur ? La pluie trahit la nature de cette substance, en laissant serpenter sous vos pieds des filets d'un brun noir, repoussés dans les pavés et ruisselant dans les artères sinueuses du Kislak primitif. Et pourtant, impuissant à se rassembler pour former des flaques à cause des roues innombrables qui éclaboussent tout, supérieures en nombre au visage des habitants, et qui emportent cette substance dans des hurlements de klaxons au-delà du pont qui mène en Asie, en Anatolie, en Ionie, à Trébizonde et à Smyrne. Comme partout en Orient, il y a à Istanbul une multitude de cireurs de bottes de tous âges, avec des boîtes superbes, cerclées de cuivre, qui abritent leur cirage dans de petits récipients ronds de cuivre encore plus fin, avec un couvercle en coupole, tels des mosquées miniatures sans minaret. L'omniprésence de la profession s'explique par la saleté, par cette poussière qui recouvre d'une poudre grise impénétrable vos mocassins éblouissants qui reflétaient le monde entier il y a encore 5 minutes. Comme tous les cireurs de bottes, ces gens sont de grands philosophes. Ou mieux, tous les philosophes ne sont que des cireurs de grandes bottes. C'est la raison pour laquelle il n'est pas si important de savoir ou non le turc. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je suis assis, torse nu, dans ma chambre de l'hôtel Lycabette à Athènes, trempé de sueur, engloutissant des quantités énormes de Coca-Cola, Dans cette ville, je ne connais pas une âme. Cherchant le soir un endroit pour dîner, je me suis retrouvé au beau milieu d'une foule surexcitée qui criait des choses inintelligibles. À ce que j'ai cru comprendre, les élections sont pour bientôt. J'ai traîné dans une interminable rue principale, bloquée par les piétons et les voitures. Les klaxons hurlaient dans mes oreilles. Je ne comprenais pas un traître mot. Tout à coup, il m'est venu à l'esprit que c'est cela au fond, l'au-delà. La vie terminée, mais le mouvement qui continue. L'éternité, c'est cela. Voilà 45 ans, ma mère me mettait au monde. Elle est morte il y a 2 ans. L'année dernière, c'est mon père qui est mort. Moi, leur seul enfant, je marche ce soir dans les rues d'Athènes, des rues qu'ils n'ont jamais vues et qu'ils ne verront jamais. Le fruit de leur amour, de leur pauvreté, de la servitude dans laquelle ils ont vécu et sont morts, leur fils marche libre. Et comme il ne les rencontre pas dans la foule, il comprend qu'il se trompe, que ce n'est pas l'éternité. Quiconque s'essouffle facilement n'a rien à faire ici, à moins de louer un taxi à la journée. Pour l'occidental qui vient à Istanbul, la ville est incroyablement bon marché. Lorsqu'on calcule les prix en dollars, en marques ou en francs, beaucoup de choses ne coûtent pratiquement rien. Les cireurs de bottes, par exemple, ou un thé. C'est un sentiment curieux que d'observer une activité humaine sans expression monétaire. On ne peut l'évaluer. On dirait une sorte de paradis ou un monde originel. Sans doute cet aspect d'autre monde qui constitue la fameuse fascination que l'Orient exerce sur l'harpagon nordique. Ah, ce cri de guerre de la blonde grisonnante, c'est une affaire. N'a-t-il pas de surcroît une consonance gutturale, même pour une oreille anglaise? Ah, et ce « regarde comme c'est mignon, chérie » dans au moins 3 langues européennes, et le froissement de billets de banque sans valeur, épiés par des yeux noirs, craintifs, condamnés autrement à contempler la télévision et leur innombrable famille. Ah ! Cet entre-deux-âges envoyé dans le monde entier par ces cheminées de banlieue. Et pourtant, malgré sa vulgarité et sa bêtise, cette poursuite est foncièrement plus innocente et plus profitable aux autochtones que la venue de quelques parisiennes jacassantes et débrouillardes ou celle de ce prolétariat de l'esprit, fatigué du yoga, du bouddhisme ou de Mao et qui fouille maintenant, entre autres, dans les profondeurs du soufisme, du sunnisme et de l'islam chiite clandestin. Bien sûr, dans ce cas, aucun argent ne change de main. Entre le bourgeois réel et le bourgeois mental, mieux vaut avoir affaire au premier. Le Bosphore. Bande d'eau usée. Seuls vêtements qui appartiennent en propre à Uranie, quels qu'aient été les efforts de Clio pour le revêtir. Il est toujours ridé, et les jours gris en particulier. Nul ne dirait qu'il a été souillé par l'histoire. Son courant de surface se débarrasse de la saleté de Constantinople au nord, et c'est peut-être pour cela que la mer y est dite noire. Puis, d'une culbute, il plonge jusqu'au fond et, sous forme d'un courant profond, fuit dans l'autre sens, jusqu'à la mer de Marmara, la mer de marbre, probablement pour se blanchir. Il en résulte cette couleur vert bouteille poussiéreuse, la couleur même du temps. L'enfant de la Baltique ne peut manquer de la reconnaître. Il ne peut se défaire de la sensation ancienne qui fait de cette substance houleuse, continuellement mouvante, clapotante, le temps. Ou ce à quoi il ressemblerait s'il était condensé ou photographié. Voilà, pense-t-il, ce qui sépare l'Europe et l'Asie. Et le patriote en lui souhaite que l'écart se creuse. Ces deux corneilles deviennent un peu trop effrontées. Voilà qu'elles se sont posées sur mon porche et traînent près du vieux tas de bois. Elles sont noires comme de la poix Et bien que j'évite de les regarder, je remarque qu'elles diffèrent un peu par la taille. L'une d'elles est plus petite que l'autre, comme ma mère, qui arrivait à l'épaule de mon père. Mais leurs becs sont les mêmes. Je ne suis pas ornithologue, mais je crois que les corneilles vivent longtemps, en tout cas les corbeaux. Bien que je ne puisse définir leur âge, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un vieux couple. En promenade, je n'ai pas le cœur de les chasser, mais je ne puis pas non plus communiquer avec elles, de quelque manière que ce soit. Pour autant que je sache, les corneilles ne sont pas des oiseaux migrateurs. S'il est vrai que la mythologie naît de la peur et de l'isolement, je suis isolé, c'est un fait. Et je me demande combien de choses désormais vont me rappeler le souvenir de mes parents. Je veux dire qu'avec ce genre de visiteurs, qui a besoin d'une bonne mémoire?
Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры, острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит равны и глуховаты. Затем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливее, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря, зато тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря обретший речи дар в глухонемой вселенной.
Une amie de poète.